Bon, eh bien, bonjour, bonjour à tous. Merci, merci à tous ceux qui sont présents d'avoir le courage de me rejoindre en plein mois de juillet. On va vous présenter, on va vous faire une présentation très condensée aujourd'hui du devoir de vigilance et de l'impact de la réforme sur la chaîne de valeur et notamment sur les acheteurs et les fournisseurs. Vous avez autour de la table une équipe mixte. Donc, moi, je suis avocat associé au sein de PwC, Société d'avocats. J'interviens essentiellement en M&A et dans ce cadre, je suis amené évidemment à conduire un certain nombre d'audits d'acquisition dans lequel le volet ESG RSE est évidemment important, de plus en plus important, on va le voir. Et donc, on travaille régulièrement avec les équipes ESG de PwC qui sont avec nous ensemble sur les différents projets. Moi, je serai chargé de vous faire une rapide introduction qui présentera le devoir de vigilance, dans quel contexte il a été adopté, quel est son contenu, ses limites. On verra qu'il y a une limite importante au niveau des sanctions. Et finalement, au bout de 4 ans, quel est le bilan qui pourra être dressé? Vous avez autour de la table Jérémy Houssain et Chloé Théron. Jérémy et Chloé, je vous laisse vous présenter rapidement.
Bonjour, bonjour à tous, je suis Jérémy Houssain, je suis directeur de notre équipe développement durable, où je travaille depuis 10 ans et en particulier j'interviens régulièrement sur des sujets en matière de devoirs de vigilance pour accompagner nos clients côté acheteur ou côté fournisseur.
Bonjour à tous. Chloé Théron, donc je travaille en tant que manager avec Jérémy dans les équipes développement durable de PwC. Et je travaille également sur ces sujets d'achat responsable et de devoir de vigilance. Et donc avec Jérémy, on vous présentera tout à l'heure notre étude RSE, la parole aux fournisseurs.
Merci beaucoup à tous les deux. On a également Paul Menu qui est avec nous et que je laisse se présenter, Paul.
Oui, bonjour à tous. Donc, Paul Menu, je suis manager également des équipes conseil de PwC pour ma part dans les équipes SSM pour Supply Chain, Strategic Supply Chain Management. Et je vais vous parler tout à l'heure de relocalisation et de sécurisation des approvisionnements.
Voilà, donc vous le constatez, le sujet est plutôt dense. C'est très ambitieux de vouloir couvrir tous ces aspects en 45 minutes. On va essayer de le faire au maximum. Chaque partie devrait prendre 10 à 15 minutes. On va faire au mieux. N'hésitez pas à poser des questions, bien entendu. On ne va pas pouvoir forcément y répondre en direct. On n'y arrivera même sans doute pas parce qu'on va être un petit peu dans le respect de l'horloge, mais on fera au mieux pour répondre au maximum de questions par la suite. Donc, posez-les, n'hésitez pas, et on sera à votre disposition pour apporter les compléments nécessaires si des points méritaient d'être creusés ou n'étaient pas clairs pour vous. Alors, pour replacer le contexte du devoir de vigilance, il faut revenir en arrière au 24 avril 2013. Le 24 avril 2013, au Bangladesh, un immeuble, le Rana Plaza, où travaillent un certain nombre de sous-traitants de l'industrie textile mondiale, avec des grandes marques comme Walmart, Inditex, Mango, Primark, H&M et un certain nombre, s'effondre et cause la mort de 1 000 travailleurs locaux. Cette catastrophe a eu un énorme retentissement. La réplique a renforcé les choses puisque peu de temps après, on a eu des échos des conditions de travail forcées sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, il y a eu un tollé et une prise de conscience générale en Europe sur les conditions de travail des sous-traitants des grands groupes industriels. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est une tendance lourde depuis quelques années, on voit que sont de plus en plus plébiscités finalement un certain nombre de valeurs, le respect de la personne humaine et des grands principes. C'est des principes qui étaient déjà énoncés dans un certain nombre de traités internationaux, mais finalement qui n'étaient pas vraiment ni connus, ni forcément suivis. En même temps, on observe de la part des consommateurs une vraie prise de conscience, voilà, avec une volonté de mieux consommer, de bien consommer. Tendance que finalement la crise sanitaire du Covid et le confinement a renforcé de manière quasiment exponentielle. chacun de nous a pu mener une réflexion générale sur, sur la société de consommation, sur son rôle, sur le consomme acteur, voilà, avec des applications type UCA. Donc, tout le monde essaye de faire un petit peu attention. C'est une tendance vraiment très, très lourde. Et donc, dans ce contexte, et la France était un peu un précurseur, on a décidé, il a été décidé de mettre en place un devoir de vigilance qui, dans les grandes lignes, pose une obligation aux entreprises donneuses d'ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance qui seraient liés à leurs opérations, mais qui s'étend également, et c'est ça qui est important, aux opérations de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux, que ce soit des sous-traitants ou des fournisseurs. Donc, que dit le texte en lui-même? Alors, en France, le devoir de vigilance s'incarne dans une loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre qui a été adoptée un peu difficilement le 21 février 2017 par les députés et qui a été ensuite validée et retoquée partiellement par le Conseil constitutionnel le 23 mars 2017. Sur le fond, comme je le disais, on s'est beaucoup inspiré dans l'élaboration de la loi des grands traités internationaux et notamment des principes de l'OCDE. Alors, sur le champ d'application de la loi, et c'est là où il faut faire attention, en fait, au départ, la loi 2017-399 vise à remettre au cœur des objectifs les droits humains et les droits de l'environnement dans les multinationales. C'est-à-dire que vraiment, le texte vise les grandes entreprises. On parle des sociétés françaises qui emploient au moins 5 000 salariés en France et celles qui emploient plus de 10 000 salariés dans l'Hexagone alors qu'elles ont leur siège social ailleurs dans le monde. Donc, on se dit finalement en quoi les ETI sont concernées par, par cette nouvelle contrainte. Mais en réalité, parce que évidemment, au premier chef, sont concernées les multinationales, mais les obligations qui découlent de la loi sur le devoir de vigilance vont évidemment ruisseler sur toute la chaîne et concerner non seulement toutes les filiales, mais pour chacune de ces sociétés, les sous-traitants, les fournisseurs, et ce, à la France comme à l'étranger. Donc, en fait, tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit sa localisation dans le monde, peut être concerné demain par ce texte. Alors, que prévoit sur le fond la loi française? Alors, on le verra, c'est un petit peu compliqué, mais la loi française, malheureusement, elle peut être assimilée à ce qu'on appelle le droit mou, la soft law, c'est-à-dire que comme elle a été partiellement retoquée et qu'il n'y a pas véritablement de sanctions, c'est plus, pour l'instant, vu comme un énoncé de grands principes. Voilà. C'est un texte plutôt court qui fixe des grandes règles, mais qui ne rentre pas dans le détail des process, d'autant plus qu'un décret devait être publié pour préciser les modalités d'application et que ce décret n'a jamais été publié. Pour revenir sur le fond, l'idée, c'est que toutes les entreprises concernées par la loi élaborent avec leurs parties prenantes des mesures de vigilance raisonnables. Mesures de vigilance raisonnables qui, évidemment, ont vocation à être mises en place au sein du groupe. Quel est l'objectif? Alors, l'objectif, c'est d'identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Donc, finalement, l'idée, pour résumer, c'est d'établir en interne une cartographie des risques destinée justement à identifier ces risques, à les analyser et les hiérarchiser. L'autre point consiste à mettre en place des procédures d'évaluation régulière de la situation non seulement de l'entité, mais également des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs avec lesquels on entretient une relation commerciale au regard de la cartographie des risques. Ensuite, il faut évidemment prévoir des actions adaptées d'atténuation des risques qu'on aura identifiés ou de prévention justement des atteintes graves aux droits humains ou à l'environnement. Enfin, on met en place un mécanisme d'alerte et un mécanisme de suivi des mesures. En réalité, comme je vous le disais, un décret aurait dû rentrer un peu plus dans les détails et préciser tout ce qu'on met en place. Le décret n'a pas été publié et donc c'est la loi qui est un petit peu rentrée dans les détails, mais la loi telle qu'on la connaît est un peu bancale, un peu imparfaite, même si elle a un certain mérite, elle n'est pas totalement aboutie. Alors, vous me direz, quand il y a un faisceau, un ensemble de nouvelles règles contraignantes qui sont prévues, pour qu'elles soient appliquées, pour qu'elles soient mises en œuvre, on prévoit généralement les sanctions idoines. Donc, en fait, il y a plusieurs mécanismes de sanctions. Il y a évidemment un mécanisme de mise en demeure des entreprises défaillantes qui est classique. On prévoit également la possibilité pour le juge de soumettre la société défaillante à une injonction. Et enfin, le juge peut engager la responsabilité s'il constate des manquements aux obligations qui découlent du devoir de vigilance. Mais surtout, en fait, le texte de la loi prévoyait un volet répressif avec la possibilité d'infliger des amendes civiles, et des amendes civiles d'ailleurs significatives. Celles-ci pouvaient atteindre 10 millions d'euros si le plan de vigilance n'était pas établi, voire même la somme triplée, c'est-à-dire 30 millions d'euros, si on constatait une violation grave des droits fondamentaux. En fait, il y a eu un débat passionné en France sur les sanctions, et on verra, le Conseil constitutionnel, finalement, a retoqué cette partie importante, tout le volet répressif de la loi, ce qui a considérablement, évidemment, limité sa portée. Alors, quel était l'accueil à ce moment-là de la loi en France? En fait, comme je vous disais, le texte a vraiment déchaîné les passions et l'adoption de la loi s'est faite dans la douleur. En fait, on a eu de nombreux allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a fallu une pression amicale du ministre de l'économie de l'époque, Michel Sapin, pour que le texte puisse être finalisé. Si généralement, dans l'opinion publique, le texte a été plutôt bien accueilli, mais également au niveau des ONG, des collectifs, des associations et de la gauche, évidemment, le texte a été fortement critiqué à l'époque par le patronat qui voyait potentiellement un risque de baisse de la compétitivité des entreprises avec des contraintes nouvelles dans un contexte économique déjà un petit peu tendu. Donc notamment la FEP et le MEDEF, mais ainsi qu'une partie de la droite du Parti Républicain, s'étaient opposés au texte. Et donc au final, la droite avait porté le texte adopté par l'Assemblée nationale devant le Conseil constitutionnel, qui finalement a un peu tardé, mais a rendu sa décision le 27 mars, et qui a censuré tout le volet répressif de la loi. En effet, le Conseil constitutionnel, dans les grandes lignes, a considéré que les termes employés dans le texte étaient quand même très, 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 très imprécis quant aux obligations qui étaient créées, qu'il y avait un certain nombre de concepts tels que mesures de vigilance raisonnable, actions adoptées d'atténuation des risques, qui étaient des termes très, très généraux, très larges et grosso modo largement indéterminés. Donc, en fait, pour le Conseil constitutionnel, il y avait du flou, il y avait une zone d'incertitude qui créait de l'insécurité juridique. Et donc, finalement, les sanctions civiles ont été abandonnées. Donc, au final, qu'est-ce qui reste pour les victimes? La seule possibilité qui reste au titre de la loi est de saisir le juge et lui demander de faire respecter cette obligation. Voilà. Mais, d'une manière générale, l'objectif qui était recherché par le Parlement n'est pas totalement atteint. Alors justement, au terme du bilan, je dirais que depuis l'adoption, les controverses et les passions qui avaient présidé à l'élaboration du texte ont largement disparu et sont un petit peu dépassées maintenant. D'une manière générale, le bien fondé et la philosophie du texte est mieux admise par tout le monde. Il y a un bilan très positif qu'on peut retirer, c'est que il y a une prise de conscience grâce à cette loi des différents enjeux, avec la mise en place d'une éthique des affaires au sein des groupes. Le fait qu'il n'y ait pas de sanctions immédiates pour le moment a permis en fait de profiter de cette de cette période de transition de droit mou pour se familiariser avec les différents concepts et commencer à préparer le terrain, à mettre en place un certain nombre de mesures, en fait, sans avoir l'épée de Damoclès de l'amende civile au-dessus de la tête. Alors, les limites du bilan, en fait. Le bilan est quand même en demi-teinte. Hein. Le Conseil général de l'économie a publié en février 2020 son premier rapport d'évaluation de mise en œuvre de la loi. Régulièrement, vous avez des ONG, des associations, des syndicats, on peut citer Sherpa, qui est assez connu, ou l'association EDH, qui dressent des bilans d'application de la loi par les entreprises. Alors, effectivement, le bilan est en demi-teinte, même si de manière positive, on remarque que les pratiques ESG ont nettement progressé depuis 4 ans, que les entreprises qui ont été passées sous la loupe ont acquis une certaine expérience dans le domaine. Il y a très, très peu pour l'instant d'entreprises leaders. Voilà. Le degré de maturité reste relativement faible. Des processus, des dispositifs de vigilance ont commencé à être mis en place, mais ça reste pour l'instant très, très immature. Voilà. Alors, pourquoi c'est important? Et je vais essayer de me dépêcher et d'aller très vite. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, cette loi, d'abord, était une des premières lois à vraiment insister sur le devoir de vigilance. Et en fait, elle s'inscrit dans une dynamique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a fait des émules. La loi Pacte en France qui a été votée en 2019 est toujours un peu dans le même esprit, c'est-à-dire en permettant aux entreprises d'être des entreprises à mission. Elle les incite finalement à réfléchir sur leur historique, sur leur passé et sur le socle de valeurs qui réunit les équipes et qui font qu'elles existent. Donc, on essaye d'insuffler une vision long-termiste de l'économie et essayer de rendre les entreprises les plus vertueuses, finalement. On voit qu'en Allemagne, il y a un projet de loi qui est en train d'être voté. Donc, il va y avoir un texte allemand sur le devoir de vigilance qui, pour le coup, est un peu différent de la loi française. Elle met en place un rapport annuel de diligence raisonnable qui est assez proche du plan de vigilance prévu par la loi française, mais elle va beaucoup plus loin. Et pour le coup, contrairement au texte français, elle est très dense et très détaillée sur les différents process à mettre en place. Voilà. Quant à la sanction qui est prévue en droit allemand, ça sera 2% du chiffre d'affaires annuel en cas de violation avec une autorité dédiée chargée de veiller au respect de la loi. Enfin, depuis février, il y a un projet de directive européenne qui est à l'étude pour étendre finalement le devoir de vigilance français à l'ensemble des pays membres. Voilà. Donc, on le voit, le cadre juridique s'étend, il se renforce. Progressivement, il est évident que des sanctions vont être mises en place. Et donc, en fait, on va avoir une nouvelle série, une nouvelle strate de normes contraignantes pour les ETI. Voilà. Alors, en fait, il faut relativiser. Hein. C'est évidemment une contrainte, mais il faut également y voir toute la richesse que ça apporte. Nous, on se rend compte que l'ESG est devenu clairement une activité, un domaine incontournable dans le cadre des acquisitions. Il y a encore quelques années, on a commencé à mettre en place des audits anticorruption pour les investisseurs, notamment pour les fonds d'investissement, qui ne s'intéressaient pas vraiment à l'ESG. Sur toutes les dernières missions qu'on a pu rencontrer, il est évident que l'ESG est un sujet clé totalement incontournable et qu'un investisseur voudra voir s'il y a une conscience au niveau de l'entreprise, si des procédés ont été mis en place ou au moins ont commencé à être mis en place. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une société qui a mis en place une procédure ESG, une procédure de devoir de vigilance, est une société organisée et qu'elle peut valoriser fortement auprès d'un investisseur cette prise de conscience et les procédés mis en place. Donc, de manière positive, au-delà des contraintes mises en place, vraiment une vraie valeur ajoutée, une vraie valorisation de l'entreprise. Alors, je vais maintenant passer la parole à Chloé et à Jérémy qui vont vous détailler l'impact de la loi au niveau des sous-traitants et des fournisseurs.
Merci beaucoup, Eric, pour ces éléments de cadrage. Ils sont très intéressants, effectivement, qui montrent aussi que la France est pionnière sur ce sujet. Alors, certes, par exemple, au UK, il y avait déjà eu une loi qui était la Modern Slavery Act, mais qui se limitait, par exemple, à encourager les entreprises à publier des informations sur ce qu'ils faisaient sur les sujets d'esclavage moderne. Là où la France demande aux donneurs d'or de mettre en place des choses et d'en rendre compte en publiant ce qu'ils font, à l'externe. Et en plus, en étendant la responsabilité des sociétés mères françaises à ce qui peut se passer à l'étranger, chez leurs fournisseurs, chez leurs sous-traitants ou aussi chez leurs filiales. Et en ça, elle est novatrice et ça a clairement quand même encouragé, comme tu le disais, Eric, les sociétés mères à renforcer leur dispositif de vigilance sur leur chaîne de valeur, clairement. On découvre quand même quelques premiers cas aussi qui vont arriver ou qui arrivent devant la loi avec des entreprises comme Total, EDF ou encore Téléperformance qui sont pointées du doigt pour peut-être des carences par rapport à l'application de la loi sur le devoir de vigilance. Donc, cette loi sur le devoir de vigilance, elle s'applique aux donneurs d'ordre. Elle leur demande de mettre en place des choses, de mettre en place des garde-fous pour maîtriser leurs risques sur leur chaîne de valeur et notamment pour maîtriser leurs risques au niveau de leurs fournisseurs et sous-traitants de rang 1, donc ceux avec lesquels ils ont une relation commerciale établie. Ce qu'on commençait à observer déjà depuis pas mal d'années, et pas forcément juste en lien avec le devoir de vigilance, c'est que globalement, il y avait quand même une augmentation des demandes venant des donneurs d'ordre auprès des fournisseurs sur les sujets de RSE ou d'ESG. On s'est posé la question alors avec nos partenaires BPI France et l'ORS, finalement, est-ce que cette intuition que l'on avait, elle se concrétisait vraiment sur le terrain? Est-ce que oui ou non, les fournisseurs recevaient plus de demandes en matière de RSE? Quelle forme prenaient ces demandes? Quel était le sentiment des fournisseurs sur ces nouvelles sollicitations? Et ça a été le constat initial, en tout cas le point de départ de l'enquête que l'on a menée, qu'on a publiée l'an dernier, en 2020, où on a donné la parole aux fournisseurs, tout simplement, sur ces sujets, parce qu'on s'apercevait qu'ils n'avaient pas forcément de caisse de résonance ou de moyens de faire remonter leur point de vue. Et donc, on a sollicité pas mal d'entreprises pour mener cette enquête. Et 600 entreprises ont répondu à notre enquête, dont 91% étaient des TPE et des PME. À noter que notre échantillon, par rapport à cette enquête que l'on a menée, se concentrait sur des fournisseurs français uniquement. Et intéressant de noter aussi que 87% des répondants étaient directement les dirigeants de leurs organisations. Vous avez ici sur la slide la répartition des secteurs d'activité des répondants qui est assez diverse. Et 10 messages clés ont été notés dans le cadre de cette enquête. On se propose avec Chloé de vous parcourir ces 10 messages clés. Du coup, Chloé, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Jérémy. Le premier message qu'on voulait partager avec vous et qui est ressorti de notre étude, c'est que donc, la RSE est un passage obligé dans la relation entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. Plus de 70% des fournisseurs qui ont été interrogés dans le cadre de notre étude sont régulièrement sollicités par leurs clients sur les sujets liés à la RSE. Et ce qui est intéressant à ajouter, c'est que plus la taille de l'entreprise est grande, plus les sollicitations sont fréquentes, avec un pourcentage qui passe à 50% quand on parle de TPE interrogés et à 79% pour les PME. Et donc, comme le mentionnait Jérémy en introduction, cette tendance est renforcée par la loi sur le devoir de vigilance, car depuis qu'elle est entrée en vigueur, un tiers des entreprises se disent davantage sollicitées sur des sujets de RSE. Si on reste à la slide d'avant, je vois qu'on avance un petit peu dans les slides. Donc, le deuxième message, la slide précédente. Voilà, donc le deuxième message clé qu'on voulait partager avec vous, c'est que les demandes liées au sujet RSE se concentrent au moment de l'appel d'offres, qui est un moment très spécifique dans la relation entre le donneur d'ordre et le fournisseur. Et donc, pour 79% des fournisseurs interrogés, la RSE et le sujet de la RSE est abordé à ce moment de l'appel d'offres. Et elle se traduit par des demandes spécifiques au moment de l'appel d'offres, qui est, pour 54% des cas, que le donneur d'ordre demande au fournisseur de satisfaire à des critères RSE pour pouvoir postuler à l'appel d'offres. Également, on peut avoir des demandes de donneurs d'ordre d'avoir la signature d'une clause contractuelle au moment de la formalisation de la relation, avec le fournisseur, pour 35% des fournisseurs. On a également la signature d'un engagement propre au client. Donc, on a des clients qui ont leur propre charte achat responsable, leur propre code de conduite et qui demandent à leur fournisseur de signer ces engagements. Et ça représente 50% des fournisseurs qui ont été interrogés. Et enfin, on va avoir des choses de type déclaration de la part du fournisseur de conformité avec des normes, notamment sociales et ou environnementales, pour 39% des fournisseurs sollicités. Donc, ce qui est intéressant également de mentionner, c'est que ces sollicitations, elles sont beaucoup moins systématiques quand on avance dans la relation avec le fournisseur et donc au cours de la vie du contrat. Et donc, on a, par exemple, à titre d'exemple, 30% des répondants qui ont déclaré être sollicités par leurs clients pour des discussions liées à la RSE pendant la vie de leur contrat. 27% pour des sujets liés à des visites de sites et à des audits fournisseurs. Et enfin, 11% pour des enjeux liés au reporting extra-financier. Voilà pour ce deuxième message. Si on passe au troisième message, le troisième message est que ces TPE et PME, et c'est plutôt une bonne nouvelle, sont majoritairement convaincus de l'intérêt d'une démarche RSE. Donc, pour 61% des fournisseurs que nous avons interrogés, ils reconnaissent que les demandes RSE qui leur sont faites par les clients, par les donneurs d'ordre, les conduisent réellement à améliorer leur offre et leur processus en matière de RSE et peuvent donc représenter une source de nouvelles opportunités. Et donc, même 40% d'entre eux initient de manière volontaire des démarches de certification, notamment, même si ce n'est pas, exigé justement par le client pour mettre en place une relation commerciale. Le quatrième message qu'on voulait partager également avec vous, c'est que ces sollicitations de la part des clients, elles conduisent réellement les fournisseurs à se structurer dans leur gouvernance du développement durable, de la RSE. Le constat qu'on a pu faire dans notre étude est que face à des sollicitations qui augmentent en nombre et en technicité, les fournisseurs sont globalement peu ou pas armés pour y répondre, même si elles se structurent. Et donc, 60% des entreprises que nous avons interrogées n'ont pas de personne, en fait, qui est dédiée à ces questions de RSE, même des personnes qui pourraient être dédiées à temps partiel uniquement. Et donc, la conséquence directe de cela, c'est que dans 75% des cas, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui doivent directement s'impliquer dans la réponse aux sollicitations des donneurs d'ordre. Pour autant, on a relevé que pour 2/3 des fournisseurs interrogés, ils considèrent que le temps nécessaire pour répondre aux sollicitations en matière de RSE est raisonnable. Et enfin, ce qu'on voulait également souligner, c'est que 70% des clients souhaitent de plus en plus avoir des informations sur les fournisseurs de rang 2, c'est-à-dire les fournisseurs des fournisseurs. Ce qui nécessite pour les fournisseurs de non seulement se structurer pour répondre sur leurs pratiques, mais également de pouvoir répondre sur les pratiques de leurs propres fournisseurs. Et lors de notre étude, on a pu constater que seuls 45% des fournisseurs ne disposaient d'aucune information sur leur propre chaîne amont, leur propre fournisseur. Et donc, doivent se structurer également pour pouvoir répondre aux clients sur la chaîne d'amont au-delà de leur rang, mais également sur leur fournisseur de rang E. Et on peut bien évidemment s'attendre à ce que ce rang grandisse, rang 3, rang 4 et rang N à terme. Le cinquième message qu'on souhaitait partager est que ces questionnements RSE sont encore génériques et pas toujours suffisamment centrés sur les enjeux qui sont matériels pour les fournisseurs. Donc, 38% des fournisseurs soulignent que la pertinence des sollicitations RSE n'est pas au rendez-vous. Et ce qui peut constituer un frein à l'innovation pour ces fournisseurs, car on leur demande de se concentrer sur des enjeux administratifs, réputationnels et de conformité qui ne leur permettent pas toujours d'aller sur les sujets qui sont plus matériels pour eux. Ce pourcentage de 38%, il monte selon les secteurs, donc à 45% dans le secteur de l'agroalimentaire et 44% pour l'automobile. Et donc, les clients sollicitent principalement les fournisseurs sur des thématiques liées à la santé et à la sécurité des travailleurs, à la gestion des déchets, à l'éthique et aux relations et aux conditions de travail. Des thématiques telles que la gestion des communautés ou du développement local sont encore peu demandées de la part des donneurs d'ordre, et donc les fournisseurs sont peu sollicités sur ces questions-là, avec moins de 30% de sollicitations. Les principales raisons que l'on a relevées à ce manque de matérialité est l'inadaptation des sollicitations au secteur et au marché de la part des donneurs d'ordre, de leurs sollicitations, notamment par manque de ressources humaines et par manque de moyens financiers. Je vais ensuite passer la parole à Jérémy pour vous énoncer les messages clés à partir du 6e et jusqu'au 10e.
Merci Chloé. Du coup, je vais passer au 6e message. Donc, sur les 5 premiers messages, on montrait clairement que la RSE constitue une condition importante d'accès au marché. Néanmoins, on peut constater que l'élévation du niveau d'exigence sur les sujets a encore peu d'impact sur les prix de vente. En effet, une majorité des fournisseurs expliquent ne pas encore parvenir à valoriser leur performance RSE au travers des prix de vente dans leurs produits ou services ou à travers le maintien des contrats et l'obtention de nouveaux marchés. Notamment, à titre d'exemple, deux personnes interrogées ont exprimé le fait qu'il est difficile de traduire la démarche RSE comme un avantage distinctif ou encore que la valorisation des pratiques RSE est difficile à facturer. Les rendements à court terme restent privilégiés à défaut de s'inscrire sur des investissements de long terme. En termes de 7e message, un constat satisfaisant, près de la moitié des fournisseurs observent une évolution positive ces dernières années de la relation donneur d'ordre fournisseur, mais encore un manque de cohérence avec d'autres enjeux pourtant majeurs pour eux. En effet, la moitié des fournisseurs considèrent que les pratiques de leurs clients ne sont pas encore conformes aux bonnes pratiques d'achat responsable, et notamment sur 4 points, sur la pression à la baisse sur les prix, les clauses contractuelles déséquilibrées, le non-respect des délais de paiement ou encore la modification unilatérale des contrats. Et les pourcentages que vous voyez là sur la droite avec les bullet points, 87%, 72%, 59%, 36%, ils augmentent encore à 93%, 84%, 60% et 48% lorsque les clients sont majoritairement des ETI et des grandes entreprises. Le 8e message explique que face aux sollicitations des donneurs d'ordre, donc on l'a vu, qui augmentent en nombre et évoluent en forme, les fournisseurs expliquent être souvent laissés malheureusement sans accompagnement. Et donc ici, on se prive peut-être d'un levier de progrès, d'un levier d'innovation. Et lorsque cet accompagnement existe, quelle forme peut-il prendre, par exemple, à titre d'inspiration, on observe des définitions de plans d'action entre donneurs d'ordre et fournisseurs, donc un accompagnement qui se matérialise ensuite auprès des fournisseurs, des réunions de suivi sur la mise en place des mesures, des ateliers directement de travail sur les sujets de RSE ou encore des formations. Et parfois, on observe aussi des incitations financières. 9e message, un message auquel vous attendiez peut-être, mais à côté duquel on ne peut pas passer, les fournisseurs appellent à plus de transparence. Plus de la moitié des fournisseurs ressentent un manque de communication et de transparence de leurs clients, notamment sur le fait que la pondération des critères RSE ne leur soit pas communiquée lors des appels d'offres ou encore que les clients ne fassent pas de retour suite aux réponses RSE apportées. Et ça, on pense que ça engendre une difficulté à progresser, à se remettre en question ou encore même à innover. Enfin, si on retourne le miroir avec le 10e message, il est intéressant de noter que l'exemplarité des donneurs d'ordre est aussi fortement attendue de la part des fournisseurs, en matière d'achat certes, mais aussi plus globalement en termes de cohérence sur leurs engagements responsables. Et d'ailleurs, plus de la moitié des fournisseurs n'estiment pas leurs clients comme matures concernant les thématiques RSE. 63% des fournisseurs expriment ceci. Et ce constat rejoint d'ailleurs le sentiment de dissonance pour 66% des fournisseurs entre les exigences RSE de leurs clients et leurs propres pratiques en matière de RSE. Et d'ailleurs, enfin, une dernière stat qu'on a trouvée intéressante et à laquelle on ne s'attendait pas forcément, plus de la moitié des fournisseurs ont expliqué avoir déjà refusé une commande de la part d'un client en raison de leur pratique sociale ou environnementale. Plus de 20% quand même. Et d'ailleurs, cette stat-là monte à 29% sur l'échantillon des TPE. Le rôle d'influenceur des donneurs d'ordre doit être renforcé, nous souligne d'ailleurs un acteur du secteur de la forêt, du papier, du packaging qui a répondu à notre enquête. Donc, voilà pour les 10 messages clés. J'espère que vous avez bien entendu, parce que moi, je ne voyais pas les slides défiler. Mais en tout cas, globalement, cette enquête nous a montré que les sollicitations des donneurs d'ordre envers les fournisseurs ont augmenté en nombre, en forme, qu'elles peuvent être améliorées, être plus spécifiques pour les encourager encore à s'améliorer. Elles peuvent être plus valorisées, clairement, notamment dans l'aspect prix, et aussi un accompagnement qui pourrait être souhaitable de la part des donneurs d'ordre envers les fournisseurs. Pour information, cette année, on va lancer avec encore nos partenaires BPI France et l'ORS une mise à jour de cette enquête pour un objectif de publication en 2022. Et on va aussi étendre cette enquête pour faire réagir les acheteurs directement à ces statistiques, pour essayer d'identifier quelques business cases, quelques bonnes pratiques ou quelques réactions tout simplement face à ces statistiques. Et dernier point sur lequel je voulais insister, cette augmentation, ces observations ont clairement accéléré depuis l'arrivée de la loi sur le devoir de vigilance, qui impacte de fait les fournisseurs pour qu'ils mettent en place des choses et qui, par ricochet aussi, demande aux fournisseurs des fournisseurs de mettre en place des choses et impacte pas mal d'entreprises au sein du monde économique français. Je vais passer maintenant du coup la parole à Paul pour présenter une autre étude.
Merci Jérémy. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous parler ici de relocalisation et de sécurisation des approvisionnements au travers effectivement d'une étude qu'on a menée en partenariat avec le Conseil national des achats, puisque nous avons la conviction, et d'ailleurs ça rejoint finalement le sujet RSE, puisque les donneurs d'ordre finalement ont la clé aujourd'hui de ces problématiques-là, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec le Conseil national des achats pour, au travers des dépenses, pouvoir identifier les familles d'achat prioritaires ou propices à la relocalisation. Et dans un second temps, je vous parlerai tout simplement de ce qu'on a pu mettre en œuvre, et cette fois-ci pas au niveau d'une étude, mais au niveau de missions concrètes d'accompagnement auprès de aujourd'hui 25 entreprises, un programme qui est toujours ouvert, dont je parlerai tout à l'heure, les accompagner pour sécuriser leurs approvisionnements et leur proposer des pistes de relocalisation concrètes sur des familles d'achat qu'on aura sélectionnées. Donc, sans plus attendre, on a peu de temps, je vais vous parler un petit peu, donc voilà, au niveau du un peu de contexte, dans un premier temps, le pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui de relocalisation, même si on en a parlé depuis les 20 dernières années, mais je dirais qu'il revient dans l'actualité au regard de l'actualité récente, et du Covid. La synthèse de cette fameuse étude faite en partenariat avec le Conseil national des achats. Agir, c'est le nom de notre démarche d'accompagnement et du software qu'on a développé en interne pour aider les entreprises à identifier les risques d'approvisionnement et leur proposer des alternatives viables. Et enfin, le retour d'expérience des entreprises accompagnées jusqu'à présent. Donc, un peu de contexte. Alors, effectivement, au niveau de l'actualité récente, le Covid-19, hein, ça, c'est pas une surprise. Au niveau des entreprises, a révélé des difficultés de maîtrise des chaînes d'approvisionnement. Donc, les exemples, et ça, tous secteurs confondus, y compris les services. Au niveau de l'industrie, on parle encore aujourd'hui, et même plus que jamais, de tensions sur les marchés des matières premières, de l'acier, du cuivre, tous les métaux, tous les plastiques, tout ce qui est issu du pétrole. On a également des crises d'approvisionnement ou au moins des tensions sur toutes les opérations logistiques. Donc finalement, au niveau de toute la chaîne de valeur, qu'elle soit chez le fournisseur de rang N jusqu'à l'usine client final, on a observé des perturbations, et ce, tout secteur confondu. Si au niveau de la puissance publique et du débat sur cette dépendance à l'import, ça a été relancé avec cette crise du Covid. Et donc, finalement, santé, agriculture, agroalimentaire, matériel électronique, ça, ce sont des secteurs que l'on considère et qu'on évoque dans le débat public comme étant stratégiques. Alors, pour plusieurs raisons, j'ai quelques chiffres clés, même si je vais passer rapidement pour aller dans le cœur du sujet, mais on sait que 80% des principes actifs en pharmacie aujourd'hui sont produits en dehors de l'espace économique européen, dont une grande partie en Asie. On sait que côté de l'agriculture, le poids dans le PIB français est important. On est sur 2 200 milliards de chiffre d'affaires, 40 milliards tout de même d'importations, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui viennent de l'étranger. Alors certes, dont 30 milliards depuis l'Europe. Mais bon, bah, forcément, un impact direct sur l'emploi. Et puis, côté matériel électronique, IT, alors bon, on connaît la crise aujourd'hui des semi-conducteurs hein, qui se manifestent dans ce secteur-là. Bon, on est quand même sur 15 milliards de chiffre d'affaires en France et puis 5 milliards d'importations, mais quand on va au-delà, on sait que 70% des smartphones aujourd'hui sont fabriqués en Chine. On pense aux smartphones tout de suite quand on parle matériel électronique. En termes de souveraineté économique, on voit les impacts dans la défense, parce que finalement, bon, bah, la crise des semi-conducteurs peut toucher également et touche actuellement ces secteurs-là et finalement fragilise sont la conséquence directe de cette dépendance à l'import. Et finalement, côté de la puissance publique, ça a induit cette prise de conscience et puis c'est ce retour au niveau national du débat sur le niveau de dépendance à l'import. Donc voilà, je vous parlais un petit peu de la synthèse de l'étude qu'on a menée en partenariat avec le Conseil national des achats, donc qui regroupe des centaines d'entreprises aujourd'hui. Et finalement, on a eu accès pour la première fois à l'ensemble de leurs dépenses de 2019. Donc on a fait cette étude en 2020 par catégorie d'achat et on a pu finalement identifier avec le CNA des familles d'achats stratégiques sur lesquelles on pensait qu'ils étaient prioritaires en termes de relocalisation. Donc ici, bon, la balance commerciale hein, depuis 1971, on voit, bon, sans surprise, hein, mondialisation oblige, que les échanges n'ont fait que s'accentuer hein, depuis 1971. Ce qui est très bien. Néanmoins, en termes de balance commerciale, bien, on voit que depuis 2004, la balance commerciale française est déficitaire. Donc, cette problématique-là, bon, on ne peut que finalement trouver. Alors là, il n'y a pas une grande. Je dirais de grandes nouvelles, mais finalement, on voit une relation directe entre la part de l'industrie dans le PIB et finalement les déficits de balance commerciale. Alors, c'est pas l'unique facteur. Néanmoins, quand on regarde nos voisins européens, on se rend vite compte que l'Allemagne, qui elle a une part forte hein, de son PIB liée à l'industrie, s'en sort beaucoup mieux au niveau de sa balance commerciale, mais également tous les pays manufacturiers d'Europe de l'Est, quand finalement la France, bon, bah, malheureusement, alors avec le Royaume-Uni, bon, qui n'est pas un pays industriel, on le sait, se situe en queue de peloton au niveau de ce déficit commercial. Donc, partant de ce constat-là, hein, qu'on n'a pas inventé, bien sûr, l'idée, c'était de trouver des critères en fonction de ces familles d'achat et de ces dépenses de ces 100 entreprises, de finalement trouver les critères et identifier les familles d'achat sur lesquelles on voulait aller de manière prioritaire qui était, je dirais, favorable à une relocalisation. Alors, au niveau des critères, on a regardé tout d'abord tout ce qui était valeur des importations, demande domestique, balance commerciale, donc tout ce qui relève finalement de l'offre et puis des échanges actuellement, et puis tout ce qui relève également de la demande, mais également des tendances. Des tendances futures, puisque bon, bah, une relocalisation, elle peut être pertinente parce qu'aujourd'hui, on est très dépendant de l'extérieur, mais elle peut être pertinente aussi parce que ce secteur-là vise à se développer, et on en parlera tout à l'heure rapidement dans la pharma, notamment sur certains types de médicaments comme les anticorps monoclonaux, sur les choses d'avenir, des choses qui, stratégiquement, aujourd'hui, méritent en tout cas de s'y pencher, qui ont une forte croissance, médicaments anticancéreux et autres. Donc finalement, au regard de ces critères-là qu'on a analysés et au regard finalement des dépenses de ces entreprises-là, et puis on a également un cinquième critère qui est finalement la criticité, hein, c'est-à-dire que le besoin de souveraineté sur certaines commodités et le caractère stratégique de ces dépenses. Au regard de ces critères-là, on a pu classifier finalement et peser l'impact d'une politique de relocalisation sur ces familles d'achat. Donc finalement, je vous donne directement le résultat macroscopique, même si tout à l'heure, on va regarder très rapidement le détail. Mais donc on a, sur les secteurs que j'énonçais tout à l'heure, plus les industries, on a vu 113 catégories sensibles identifiées hein, au total, pour 58 catégories qu'on a déclarées comme étant propices et prioritaires, pour 115 finalement milliards d'euros de potentiel de relocalisation. Ces 115 milliards d'euros, ils se traduiraient en emplois directs par environ 75 000 emplois directs, ce n'est pas rien, et en emploi indirect à plus de 200 000 emplois indirects. Donc maintenant qu'on a dit ça, regardons un petit peu secteur par secteur, quelles sont un petit peu les catégories d'achats très particulières qu'on a pu noter. On voit dans la filière agroalimentaire donc les vitamines et les produits d'appoint pour animaux, la pharmaceutique animale qui a pu faire défaut aussi pendant la crise, hein. Les fruits d'arbres, d'arbustes, fruits à coque, hein. Les protéines de pois, les emballages monomatériaux. Donc ça, les emballages, c'est quelque chose qui est également commun à pas mal d'industries. Les huiles, les graisses ici, et puis les produits de régime. Donc ça, c'est pour ce qui est de la filière agroalimentaire. Ce sont les catégories d'achat sur lesquelles on a pu se pencher. Et quand on regarde sur la pharma, donc les anticorps monoclonaux, du fait de leur importance croissante dans les traitements anticancéreux notamment, donc on a les antibiotiques. Alors là, pour le coup, pas forcément quelque chose de nouveau, mais ça rejoint également ce qu'on a dit sur des médicaments plus traditionnels, comme le paracétamol, qui a fait énormément défaut pendant la crise et sur lequel, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, mais on a aussi réalisé une étude pour des grands industriels pharma français. Donc il va être relocalisé, enfin en partie, en tout cas à partir de 2024 par Sanofi. Mais finalement, on a également des médicaments traditionnels qui ont fait défaut pendant la crise. Et donc là, on s'est rendu compte véritablement de la dépendance à l'import qui existait. Donc voilà, les anticoagulants, il y en a certains. Taxan, je vais pas forcément. Donc on a les machines PCR, les fameuses, qui ainsi que les réactifs, hein, dont on a pas mal parlé pendant la crise. Mais également des dispositifs médicaux comme des seringues, comme également des robots chirurgicaux, donc toujours des choses, l'industrie de pointe qui peuvent faire défaut, ou en tout cas qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise plus sur le territoire national. Mais maintenant qu'on a dit, donc, alors là, sur la filière électronique, hein, de la même manière, donc sans surprise, les semi-conducteurs, et puis finalement, on en a l'exemple quotidien avec les ruptures d'approvisionnement sur ces familles d'achats-là. En plus de ça, hein, les PCB, donc les cartes électroniques, qu'elles soient assemblées ou non. Les cellules de batterie lithium-ion, donc là on parle aujourd'hui de Gigafactory qui serait potentiellement implantée sur le territoire français avec des consortiums de PSA, etc. Là-dessus, effectivement, aujourd'hui la filière, tout est à faire, hein, parce qu'on part de zéro et il faut voir jusqu'où on peut intégrer, mais en tout cas typiquement ça c'est un secteur qu'on a identifié comme étant propice et notamment stratégique pour une relocalisation. Tout ce qui est compétences transversales, et là c'est plus donc IT, mais je dirais développement d'applications, data analytics, intelligence artificielle, cybersécurité, donc tous ces thèmes-là, et aujourd'hui le développement de ces logiciels-là n'est pas forcément fait en France, et aujourd'hui, de manière stratégique, ce sont des secteurs sur lesquels il est souhaitable d'investir sur le territoire français, toujours pour préserver une certaine souveraineté sur ces secteurs d'avenir. Je vais un petit peu vite, hein, je suis désolé, on est pressé par le temps. Parce que finalement, là, je vous donne quelques exemples côté de l'étude qu'on a pu réaliser. Mais finalement, ça fait finalement 20 ans qu'on parle de relocalisation, mais il est temps d'agir, n'est-ce pas ? Et c'est un petit jeu de mots, hein, puisqu'on a développé, une méthodologie d'accompagnement avec les entreprises, avec plusieurs entreprises sur le territoire, que ce soit des ETI ou des grands groupes. Donc aujourd'hui, on en est à 20-25 entreprises accompagnées pour finalement identifier de manière très pragmatique sur leur portefeuille d'achat les familles d'achat sur lesquelles on pouvait proposer des fournisseurs alternatifs français et relocaliser dans certains cas. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc ici, effectivement, donc la démarche, hein, c'est une démarche flash, donc une démarche en 3 semaines. Et comment on y arrive finalement, c'est grâce à un logiciel qu'on a développé en interne qui va permettre de diagnostiquer, parce que pour convaincre l'entreprise et puis pour finalement lui montrer qu'elle prend des risques à sourcer parfois à l'étranger, alors c'est pas, il faut étudier ça, il faut étudier les dépenses, il faut étudier les risques. Finalement, l'idée, ça a été de développer un software qui nous permet, avec des bases de données internes et avec des bases de données externes, de produire et de montrer à l'entreprise immédiatement une analyse de dépenses exhaustive sur son portefeuille d'achat et une analyse de risque exhaustive également. À la lumière de cette analyse-là, on va pouvoir faire l'entretien et récolter, ce qui est très important également, parce que les indicateurs, c'est pas tout. Il y a également le ressenti, et puisqu'on revit sur le terrain du côté de l'entreprise, est-ce qu'on est en litige avec certains de ses fournisseurs? Est-ce que on va avoir des ruptures d'approvisionnement sur certains produits avec certains fournisseurs particuliers? Est-ce qu'on a une baisse du niveau de qualité? Enfin, voilà. Donc, tous ces facteurs-là qui remontent du terrain, finalement, joint, aux côtés de cette étude, vont nous permettre d'identifier des familles d'achats à risque et de pouvoir proposer dans la foulée avec un logiciel, mais également de recherche de notre côté, des fournisseurs alternatifs français sur ces familles d'achats à risque et les proposer pour lancer des RFQ, lancer des RFI à minima sur ces familles d'achat et donner leur chance, on va dire, à ces fournisseurs français sur ces familles d'achat à risque. On va passer rapidement. Bon, voilà. Alors là, ça, c'est l'illustration. Donc, on part des données clients. Donc, c'est des données clients. On a voulu faire ça de manière la plus pratique possible. Donc, on part des dépenses achats, on part des noms de fournisseurs et finalement, notre software va pouvoir faire la correspondance avec les indicateurs qui sont divers et variés sur certains axes donc de niveau de risque. Il y a 6 niveaux de risque. Donc, les risques financiers. Donc, on a des bases de données de bilan compte de résultat. On a des risques pays venant de la COFAS, d'autres sources, les risques RSE risque de dépendance, risque de dépendance à un fournisseur, mais également de dépendance du fournisseur vis-à-vis de nous. Des risques sanitaires, on ne pouvait pas passer à côté, bien sûr, avec le Covid, donc de préparation. Puis risque marché, donc les tensions sur le marché des matières premières ou autres sous-composants bien particuliers. On va pouvoir produire cette analyse-là pour donner une visibilité aux clients directement de ces familles d'achat et de quel est le niveau de risque de chacune des familles d'achat et de chacun des fournisseurs au regard de ces indicateurs-là. Donc voilà, quelques illustrations. Je vais passer très rapidement, hein, bien entendu. Je serai là pour répondre à vos questions, hein, s'il y en a de manière pointu, on va dire, mais voilà, donc vous voyez quelques slides qui sortent du rapport, c'est un rapport de 60 pages, donc où on voit voilà la part des achats, bien sûr où ils sont localisés, les Pareto, les fournisseurs stratégiques, ceux qui ne le sont pas. Finalement ce que ça engendre, le fait de ne pas avoir de visibilité sur les fournisseurs non stratégiques, etc. Du côté des risques, on voit également voilà les risques que j'évoquais tout à l'heure avec ces illustratifs-là. Donc là, vous voyez des illustrations du rapport. Bien entendu, il y a un logiciel qui est accessible par le client avant et après la prestation qui lui permet d'avoir toutes ces données de manière dynamique et avec les visualisations qui vont bien. Je vais aller assez vite pour aller directement. Alors, il y a la partie plan d'action que vous voyez là, avec la cartographie des fournisseurs alternatifs qu'on aura pu montrer. On les aura validés avec le client dans un premier temps pour s'assurer bien sûr qu'ils répondent et qu'ils soient préqualifiés sur les familles d'achat que l'on avait. On va étudier et puis parfois téléphoner aux fournisseurs pour évidemment s'assurer qu'ils soient capacitaires ou en tout cas qu'ils disposent des installations nécessaires à produire. Voilà, j'ai en tête des exemples où on avait dû trouver des fournisseurs de lames de volet roulant injectées en polyuréthane. Donc, on est vraiment sur des choses qui peuvent être très précises. Et donc, on s'assure bien entendu que nos propositions aillent bien avec les besoins du client. Et finalement, au niveau des résultats, donc on va passer directement. Pour finir sur les retours d'expérience de quelques entreprises. Donc c'est pour info, c'est quelque chose qu'on fait encore et qui se déroule toujours dans plusieurs régions, puisque c'est en partenariat avec plusieurs régions. Ces retours d'expérience-là ont été faits sur la région Grand Est et Île-de-France. Il y en a d'autres, Occitanie, Pays de Loire, donc on couvre une grande partie du territoire où on est finalement accompagné par la région qui prend une part également importante de ces prestations-là. Donc là-dessus, on avait sur sur des premières entreprises, 15 premières sur la région Grand Est, des panels étudiés pour un CA de 5 à 400 millions d'euros, un volume d'achat total de 354 millions d'euros, finalement 611 propositions de resourcing sur, pour 122 fournisseurs à risque, et puis une dépense donc de concernés potentiels pour un resourcing, une relocalisation de 57,3 millions d'euros. Sans alternative à des fournisseurs étrangers à risque pour un potentiel de 8,4 millions d'euros. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à chaque fois, voilà, exactement sur le retour que l'on a de nos clients, c'est que finalement, la pertinence des alternatives de sourcing proposées, aujourd'hui, on est quand même à un taux de 80% de pertinence sur les fournisseurs qu'on propose. La prise de conscience des enjeux achats et des enjeux majeurs associés au risque fournisseur, là, ça, c'est aussi quelque chose qui est notable. Alors, surtout sur les ETI, on a généralement un acheteur qui est en charge parfois de plus de 300, 400, 2000 fournisseurs pour certains, notamment dans le BTP où il y a énormément de fournisseurs. Là, finalement, le retour, ça a été qu'on ne sait jamais ce qui se passe quand on monitor 2000 fournisseurs tout seul. On ne sait jamais ce qui se passe sur notamment la fin de diagramme de Pareto, donc le tailspin, la dépense, les petites dépenses. Et finalement, les clients peuvent avoir des surprises sur l'analyse et sur les bases de données internes et externes qu'on peut leur montrer, les KPI qu'on peut leur montrer. Ils peuvent avoir des surprises. On se rend compte que oui, on peut être à risque sur les familles d'achat, qu'elles soient stratégiques ou non, sans forcément en être pleinement conscient. Et puis, je vous dis, parfois, on a eu en proposant des alternatives de sourcing dans la même région, à quelques dizaines de kilomètres de l'usine, eh bien, des gens qui savaient satisfaire une demande et finalement, des gens qui n'étaient pas consultés auparavant et qui aujourd'hui ont eu les portes ouvertes pour une RFI, une RFQ avec ces entreprises-là. Donc voilà, un bilan, je dirais, très positif pour les entreprises accompagnées. Et finalement, quand on est dans le cœur du sujet, puis qu'on affronte le sujet, parce que faire des études et puis dire que voilà, il y a des secteurs stratégiques sur lesquels relocaliser, c'est bien, mais quand on se confronte au cas, c'est-à-dire peser aussi l'enjeu économique, hein, parfois on se source en Chine depuis des années pour des enjeux économiques, parfois pour la disponibilité de la technologie sur le territoire ou pas. Finalement, quand on se confronte à ça, on peut avoir on a le sentiment au démarrage que ça va être une mission difficile, on a eu des résultats excellents, et je dirais que voilà, c'est encourageant pour la suite. Et je pense que cette crise Covid va changer quand même les mentalités chez les entreprises. Il y a une prise de conscience de cette maîtrise des risques qui est importante. Aujourd'hui, en termes de perte de chiffre d'affaires, les conséquences sont tellement importantes. Et puis, que finalement, la demande et le rapport avec les acheteurs, puisque nous, ceux qu'on a en direct dans ces missions d'accompagnement, ce sont les achats, les centrales, et finalement, cette prise de conscience-là, elle vient, et dans les faits, on observe quand même de belles histoires de relocalisation sur les familles d'achats qu'on pensait, je pense aux cartes électroniques, qu'on pensait vraiment perdues d'avance sur certaines commodités. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas trop dépassé le temps imparti.
On a effectivement beaucoup d'enjeux, beaucoup de thématiques à aborder. On a essayé de tenir, on a un petit peu dépassé. Merci à tous, désolé pour ce petit retard. Voilà, le sujet était dense. Voilà. On a vu que vous aviez des questions. Évidemment, on va y répondre. N'hésitez pas à nous faire un retour et à nous indiquer les sujets que vous souhaitez clarifier. On se fera un plaisir de revenir vers vous et de vous répondre. Merci à tous. Très bonne journée.
Au revoir.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.